au début de la parasha de Shemot, de Yitro. Alors nous sommes au chapitre 18. Oui, au chapitre 18. Alors je me proposais aujourd'hui, je crains que je vais être un peu dérangé encore, je me proposais aujourd'hui d'aborder deux sujets. Le premier, c'est... Une minute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qui me... Alors le premier, c'est la personnalité de Jethro, en hébreu Yitro, qui est le beau-père de Moïse. Nous avons déjà un peu abordé cette question lorsque on a étudié la tentation de Moïse d'aller à Midian après sa déception de sa première mission au bout de la 40e année de sa vie, lorsqu'il avait été envoyé pour... Lorsqu'il avait pris l'initiative, avant même d'être envoyé, de déclencher la révolte des Hébreux contre les Égyptiens, et qu'il a été obligé de s'enfuir. Vous vous rappelez qu'on avait étudié, je pense cette année, ce sujet. Il va directement chez Jethro. Il va y passer 40 ans. Ce n'est qu'au bout de la 40e année que Dieu va se révéler à lui pour lui confirmer que son premier mouvement, dont il avait l'initiative, et c'est un point très important, l'initiative de la fin de l'exil vient toujours d'abord de l'initiative humaine, et ensuite c'est confirmé, garanti, je cherche encore un autre terme, sanctionné par la révélation. On l'apprend à l'occasion de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, on l'apprend à l'occasion de la sortie d'Égypte, on l'apprend à l'occasion de chaque fin d'exil, au temps de Ezra, de notre temps. L'initiative vient d'Israël, et ce n'est que par la suite qu'il y a confirmation. C'est le mot que je cherchais. Et si j'y insiste un peu, parce que c'est un sujet très important, et toute une grande partie du peuple des Hébreux s'est perdue. L'ensemble de la nation des Hébreux du temps d'Abraham s'est perdue en Kasdim, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la décision d'Abraham. Une seule famille est sortie de Kasdim. Je n'ai pas de source à ce sujet, mais on pourrait, en se basant sur l'expérience contemporaine, comprendre ce qui aurait pu se passer par hypothèse. Je n'ai pas de source. C'est que les Hébreux du temps d'Abraham attendaient une révélation pour être sûr que c'était bien le temps venu, malgré les fours crématoires de Nimrod. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. Et à quel point nous avons vécu ces mêmes expériences incompréhensibles. Je cherche encore un autre mot qu'incompréhensible. Peut-être ce mot n'existe pas. Surtout, le récit de la Torah qui nous raconte cela au moment de la sortie d'Égypte, c'est Moïse qui prend l'initiative de la révolte. Il se heurte au refus et des Hébreux et des Égyptiens, dans l'ordre des Égyptiens et des Hébreux si vous voulez, mais certains textes montrent que le refus était beaucoup plus grave par rapport à l'initiative de Moïse de la part des Hébreux, de la part des Égyptiens, et il s'enfuit à Midian, il passe 40 ans à Midian. Il y a une espèce de blackout, de trou de 40 ans dans l'histoire de la vie de Moïse. Seuls les Midrashim nous disent ce qui se passe pendant ces 40 ans. Je n'aurai pas le temps ce soir d'approfondir cela, mais on sait qu'il était à l'école de Jethro pendant 40 ans. Donc, qui était Jethro? D'autant plus, nous allons voir tout de suite que ce n'est que au bout de ces 40 ans, lorsqu'il a eu la vision du buisson ardent et que Moïse retourne en Égypte et prend la tête vraiment de la révolte avec son frère Aaron et Myriam aussi, de la révolte des Hébreux contre les Égyptiens, qu'en fin de compte, Jethro va le rejoindre, ramenant avec lui Tzipora et ses deux enfants, et que seulement à ce moment-là, Jethro va se mettre à l'école de Moïse. Et c'est d'autant plus paradoxal encore que Jethro va continuer à être le maître de Moïse dans notre paracha, la paracha des 10 commandements, la paracha de la révélation du Sinaï, qui a le nom de Jethro, puisqu'il va enseigner une paracha entière qu'on appelle paracha Yitro, la paracha de Va'ata Tehazé, j'espère avoir le temps tout à l'heure d'y arriver, pour l'enseignement de la structure de l'administration sociale de la société d'Israël libérée d'Égypte par Moïse. Comme si Moïse ne savait pas par lui-même qu'il faut organiser une société en hiérarchie administrative. Tout ça est très très, en français, aidez-moi à trouver le mot. C'est très étonnant. Et Alors, je me propose de toucher ce premier point. Et s'il nous reste du temps, d'aborder la question suivante. Que s'est-il passé réellement au Sinaï? Pourquoi était-il nécessaire que Dieu se révèle dans cette théophanie, je vais expliquer ce mot, si exceptionnelle dans le récit de la Bible? Une théophanie, c'est une intervention de Dieu spectaculaire, c'est un mot grec. On va prendre le temps de faire l'étymologie grecque, mais c'est un mot qui a été adopté par les théologiens. Intervention spectaculaire de Dieu de manière beaucoup plus absolue que tout ce que nous savons d'autre part sur l'intervention de la providence de Dieu, la Shrina, en tant que providence dans le déroulement de l'histoire du monde. Et un récit comme le récit de la théophanie, quel qu'il soit, est très étrange dans le récit biblique parce qu'il y a une sorte de pacte à la création. Dès que la création a été aménagée pour que l'histoire de l'homme commence, Dieu entre dans le temps de son Shabbat et s'interdit d'intervenir dans le fonctionnement du monde pour que la liberté de l'homme puisse se développer. Et nous avons un rendez-vous à la fin de l'histoire du monde, l'histoire de ce monde-ci, un rendez-vous qui sera le rendez-vous du bilan, de la mise au point, du jugement. On a des comptes à nous rendre, nous avons des comptes à rendre, ce sera le Yom HaDin, ce sera le jugement dernier. Ce rendez-vous, on l'attend et il nous attend. Je dirais même plus, il nous attend beaucoup plus qu'on l'attend. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce pacte du Shabbat. Il y a ce pacte du Shabbat entre Dieu et le monde, que Dieu s'interdit d'intervenir dans l'histoire du monde à travers des théophanies, pas en tant que providence. C'est un sujet important, je vous le signale. Retenez bien les limites du sujet. Il y a un midrash très, très précis sur le verset qui dit Asher bara Elohim la'asot, à propos de ce verset, Vaishbot Elohim kol melachto Asher asa mi melechet olamo Shabbat velo mi melechet tzadikim moshaim. Je traduis pas, ça ne prendrait pas de temps, simplement je voudrais que vous entendiez la source. Ça veut dire que Dieu intervient en tant que providence de l'histoire des hommes dans le jugement des tzadikim et des moshaim. Mais en tant que créateur, il a scellé les lois de la nature. Il y a un verset très clair, Hok Natan Velo Yahavor. Retenez ce verset, Hok Natan Velo Yahavor. Ça ne fait pas partie du tout du judaïsme de croire qu'il y a un arbitraire. J'hésite parce que ça risque de nous prendre trop de temps. Un arbitraire de l'intervention de Dieu dans l'histoire du monde. En tant que créateur, il s'interdit d'intervenir sans s'il y a Pikuach Nefesh. Pour sa création, en parallèle des lois du Shabbat. On suspend le Shabbat quand il y a Pikuach Nefesh. Si Dieu juge qu'il y a Pikuach Nefesh, il intervient en théophanie. Sinon, Hok Natan Velo Yahavor. C'est pourquoi dans le judaïsme, l'atmosphère d'être impressionné par les miracles, il faut se méfier de cela. Pierre Simsovic vous a écrit la paracha de Yitro, vous allez voir ce qu'il dit à ce sujet, c'est très important de le comprendre. Ceci dit, nous avons quand même des récits de théophanie. Et ce sont des textes scellés, Satum ve Hatum. En particulier le Mahamad Arsinaï, que s'est-il passé? Et pourquoi il a fallu que Dieu brise l'alliance du Shabbat et suspende la liberté des hommes en Israël, suspende la liberté d'Israël pour lui imposer la Torah? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc ça doit être. Quelqu'un m'a posé la question, je ne crois pas dans ce cours-là, si la Torah nous est imposée. Où est la liberté de l'homme? C'est un sujet très important. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais je veux parler de Jethro, puisqu'on est à la veille de la fête de Jethro. Je viens de voir dans ma arrive, dans Yediro, je ne sais plus, une photographie très belle avec des femmes juives tunisiennes du Negev, déguisées en tunisien, et ça s'appelle la fête des enfants, dans ma arrive. Alors je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Ce n'est pas la fête des enfants, hein, sous un titre. Pour la communauté des juifs tunisiens, il y a un souvenir, une mémoire très particulière concernant les enfants. Mais c'est très spécial aux Tunisiens. À part ça, sur Dati Trou Moshe, je vous explique comment ça s'appelle. Parce que je me rappelle de mon enfance, au Talmud Torah, j'entendais dire Tion. C'est une faute de folklore. C'est Siyum, Samer, Yud, Vav, Mem. Les rachetez-vous de Soudat, Itro ou Moshe. Vous entendrez peut-être encore des vieilles gens d'Afrique du Nord dire Tion, mais simplement par assonance folklorique. Bon, je referme la parenthèse. Alors, si je ne peux pas arriver au Sinaï aujourd'hui, je vous propose que la semaine prochaine, au début de l'étude de la paracha de Mishpatim, on parlera du Mahamad Arsinaï et de la question que j'ai posée tout à l'heure, surtout, comment comprendre la suspension de la liberté d'Israël au moment du don de la Torah. Quand Dieu se révèle, l'homme n'est pas libre. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire en disant le mérite d'Israël d'avoir accepté la Torah ? On ne peut pas faire autrement, c'est Dieu qui se révèle, c'est ça ou rien. Quand Dieu se révèle, qui va... C'est clair le problème. Alors, il faut reprendre ce sujet. C'est un sujet extrêmement important. Alors, je reviens à Jérôme. Je vais un peu changer de méthode, parce qu'on a peu de temps. On va faire le plus de textes possible, et c'est à propos du texte que je signalerai tel ou tel problème. Alors, suivez bien. Je voudrais vous demander de ne pas croiser les jambes pendant l'étude, c'est interdit. Au Habibi, on ne croise pas les jambes. D'autant que tu es juste devant le Echal. Je ne sais pas si tu réalises. Derrière toi, il y a la Torah. Et tu sais que ça veut dire surveiller. Ça veut dire veiller sur. Si on veille sur toi, on te surveille. Alors je reviens au sujet. Vaishma Itro Kohen Midian. Et Jethro, prêtre de Midian. Là de nouveau, nous rencontrons un problème d'exégèse que je vous signale. Chaque fois que la Torah nous donne de nouveau des informations qu'on a déjà, il faut se demander pourquoi c'est répété, quel est le chidouche, le renouvellement de sens qu'il faut apprendre. Mais ce soir, on n'aura pas le temps pour tous les détails. Que Jethro soit le prêtre de Midian, on le sait déjà. Alors pourquoi la Torah tient à le définir comme Kohen Midian ? Petite parenthèse. Il y a une analogie très importante entre la figure de Jethro et celle d'Abraham. Premièrement, Jethro est un descendant d'Abraham. Abraham a eu, à la fin de sa vie, des enfants avec Keturah. Il y a deux sources à propos de Keturah. Qui est cette femme Keturah ? La première source dans le Midrash, c'est que c'est Agar qui a fait Tshuva, et elle a pris le nom de Keturah après sa Tshuva. Et donc c'est important pour l'historiosophie d'Israël et nos démêlés avec Ishmaël. Un jour, on assistera à ce miracle, ça se passera peut-être au pont Allenby, je ne sais pas, que Agar regardera ça d'un regard viendra faire Tshuva et on l'appellera Keturah. Bon, ça c'est déjà pour le futur. Mais de ces enfants de Keturah, il y en a un qui est important pour l'histoire d'Israël de ce temps-là, c'est Midian. C'est un des enfants d'Abraham avec Keturah. Or, Jethro était le prêtre de Midian. Très rapidement, le Midrash nous rappelle que Jethro avait eu les mêmes... les mots m'échappent. Préoccupations, disons, c'est pas le mot exact, qu'Abraham. Au sujet de la vérité religieuse, il avait essayé toutes les idolâtries du monde, en commençant par la sienne propre, celle de Midian, les manières idolâtres d'adorer le vrai Dieu. Là, il y a un problème très important. Derrière l'idolâtrie se cache un mouvement de l'homme dans la recherche du vrai Dieu. L'hérétique est persuadé qu'il est orthodoxe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Si vous voulez, l'hérétique, c'est l'autre croyant. Il est persuadé que c'est le vrai Dieu qui cherche et qu'il trouve. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Par conséquent, derrière toute idolâtrie se cache une étincelle de sainteté cachée, enfouie dans la cendre de l'impureté de l'idolâtrie, comme dit le Zohar. Et... Jethro a essayé tous les voies, V-O-I-E-S, du service de Dieu, et à travers toutes les idolâtries qu'il pouvait connaître, et les a rejetées une après l'autre. Vous voyez que c'est très parallèle à l'histoire d'Abraham, qui a cassé toutes les idoles et était disponible pour la révélation du vrai Dieu. C'est clair ? Et c'est pourquoi Jethro avait été mis au banc de la société de Midian, et c'est pourquoi c'était ses filles qui étaient obligées de s'occuper du troupeau, d'où la rencontre entre Moïse et la fille de Jethro. C'est clair jusque-là ? Donc, par conséquent, Jethro est une personnalité importante. C'est chez lui que Moïse va lorsqu'il se cherche un avenir pour la révélation qu'il porte en lui en potentiel. Elle commencera cette révélation qu'à partir de la vision du buisson ardent qui se passe chez Jethro. Dans le pays de Midian, Har Elohim, vous prendrez toutes ces dimensions de définition. Donc c'est une des manières de remettre en évidence la raison pour laquelle la Torah a jugé nécessaire de nous rappeler que Jethro était le prêtre de Midian. C'était pour nous rappeler son mérite en tant que ce qui suit Choten Moshe, beau-père de Moïse. Là, ça éclate. Le beau-père de Moïse, je vais le dire en termes contemporains, c'est un goy. La fille de Jethro, Tzipora, s'est convertie pour pouvoir être la femme de Moïse. Et imaginez le problème que ça pose en filigrane à l'horizon. Et un des enseignements du Talmud à ce sujet, c'est de dire que, étant donné la capacité collective de l'âme de Moïse, qui équivaut à l'ensemble d'Israël, il n'y a pas en Israël une femme pour Moïse. Il faut qu'il rencontre en dehors d'Israël une neshama d'envergure analogue qui, venant en Israël, pourrait être la femme de Moïse. Je vous ouvre ici une porte un peu sur les enseignements du Zohar. On n'a pas l'habitude de les étudier en détail, mais retenez cela. La neshama de Moïse est kolelet. Elle équivaut à tout Israël. Il ne peut pas y avoir pour lui, Batzoum, une fille d'Israël. Donc il faut que ce soit un être exceptionnel, c'est la fille de Jethro. Et cet être exceptionnel, qui est la fille de Jethro, va être Tzipora. Donc il joue un certain rôle, d'ailleurs, dans le récit de la vie de Moïse, puisque c'est elle, je vous le rappelle très brièvement, qui va sauver Moïse de la mort au moment de la naissance de son deuxième enfant, lorsqu'il retourne de Midian en Égypte. Une scène très difficile à étudier. Je me borne à vous le signaler. Le mérite de Tzipora d'avoir circoncis le fils de Moïse, et en cela elle a sauvé Moïse de la mort. Moïse était tellement empressé à retourner en Égypte pour sauver Israël qu'il a négligé, enfin enlevé le mot de négligé, qu'il n'a pas circoncis son fils au huitième jour. Tzipora intervient, circoncis son fils au huitième jour et sauve Moïse de la mort. Vous retrouvez cet épisode dans l'histoire de Moïse. Alors, qui est Tzipora? C'est aussi une grande figure. Voilà, vous voyez, dès qu'on commence à lire, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de temps. Alors, je vous signale toutes ces indications en passant, vous les étudiez d'autre part, appuyez-vous sur Rashi ou sur d'autres commentaires. Mais, je reprends le texte. Vaishma Yitro, et Jethro a entendu. J'essaierai de dire Yitro, parce que Jethro, moi, j'ai pas assez. En tout cas, mais pour reprendre le texte. Et Yitro entendit. Et Yitro, donc prêtre de Midian, beau-père de Moïse, entendit et kol asher asa Elohim. Suivez bien les termes qui vont être employés pour désigner le nom de Dieu. Et Jethro entendit. Et dans entendit, il a toujours compris ce qu'a fait Elohim, le mot qui est employé pour désigner l'intervention de Dieu, c'est Dieu comme créateur du monde. Et donc, garant de la nature. Tout ce que Dieu, Elohim, a fait à Moïse et à Israël, son peuple, qui aussi Hachem, et là c'est la Torah qui parle, lorsque Hachem a fait sortir Israël de l'Égypte. Est-ce que vous voyez la tension qu'il y a entre ces deux termes? Jethro comprend que l'intervention de Dieu pour Moïse et Israël passe à travers les lois de la nature. Alors que la Torah nous dit que c'est au-dessus des lois de la nature que Dieu est intervenu pour sauver Moïse et Israël. Les deux termes renvoient à deux conceptions différentes de l'intervention de Dieu dans le monde. Est-ce que c'est clair? Retenez bien cela. Elohim, je schématise beaucoup. Elohim, c'est le terme employé habituellement pour parler de Dieu comme créateur et donc comme garant des lois de la nature. Et lorsque Elohim intervient, c'est à travers les lois de la nature. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. C'est Hachem qui est Elohim, Hachem ou Elohim. Mais il s'agit de la manière dont la créature perçoit, reçoit l'intervention du Créateur. Lorsque le texte emploie le terme de Hachem, c'est au-delà. C'est lorsque le Dieu Créateur révèle son projet pour l'avenir du monde, pas pour le passé du monde qui fonctionne d'après les lois de la création, c'est-à-dire les lois de la nature. Est-ce que c'est clair la définition? Alors vous voyez le problème que le verset nous pose. Jethro, d'abord le récit, qu'est-ce que Jethro, quelle est l'expérience de Jethro? Eh bien Jethro s'est aperçu qu'il s'est passé quelque chose qui donne raison de loin à Moïse dans ses discussions avec Moïse pendant les 40 ans de Midian. Pendant les 40 ans de Midian, alors que Jethro enseignait Moïse de la sagesse de l'Antiquité, la sagesse de Shem et de Hever, telle qu'elle est passée par les patriarches et par cette descendance de Midian, la sagesse antérieure à la révélation, et se basant sur ce que Noé avait révélé à sa descendance. Vous rappelez que il y a une souche unique à toutes les traditions humaines à partir de Noé, ce qui explique énormément de correspondances dans les différentes traditions de sociétés qui sont aux antipodes les unes des autres, surtout dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences secrètes, par exemple l'astrologie. Si vous voyez à quel point il y a correspondance des signes du zodiaque dans toutes les traditions des sociétés plus ou moins primitives, plus ou moins évoluées, on se rend compte qu'il y a une souche ancienne de sagesse, pas naturelle, mais antérieure à la révélation. Et le Baal HaTorim avait indiqué cela. C'est de la sagesse. Vous avez le verset « Et Elohim italer noir ». Prenez les trois dernières lettres de ces mots, derniers mots du verset, « Et Elohim même ». Il a l'air kaf, noir, ha-hep, ça fait le mot à l'envers, le haram. Il a une chorma le mafrea. A posteriori de l'histoire du monde, il y a une sagesse naturelle qui a été apprise et transmise. Ça, c'est la sagesse de Shem et de Hever. À partir de Noir, elle est transmise à l'humanité jusqu'au temps d'Abraham. Et c'est dans la famille d'Abraham que cette sagesse de Shem et de Hever va être le véhicule de la révélation de Moïse. Est-ce que c'est clair? Là, vous rassemblerez toutes les sources qui font allusion au fait que les patriarches ont appris à la yeshiva de Shem et de Hever. C'est clair? Donc, un de ses maîtres, c'est Jethro. Et c'est à travers Dieu créateur, donc les lois de la nature, que Jethro, cependant, se rend compte qu'il est passé s'est passé quelque chose dans l'histoire d'Israël qui vaut la peine qu'il aille rejoindre Moïse pour reconnaître en fin de compte, c'est ce qui va se passer dans cette rencontre, que c'est Moïse qui avait raison et pas Jethro. Qu'au-delà du monothéisme du Dieu unique créateur, il y a le monothéisme du Dieu un révélant la loi de la sainteté. Et donc, les perspectives du monde à venir. Vous avez compris la différence? Le premier pôle s'appelle la révélation d'Elohim, le deuxième, la révélation de Hachem. La différence entre Moïse et Jethro, c'est que Moïse est déjà porteur de la révélation de Hachem, alors que Jethro s'arrête à la révélation de Elohim. Mais il était dépositaire de cette sagesse qu'il a transmise à Moïse pendant ses 40 ans. Ça y est, c'est clair? Donc, alors vous voyez comment on le lit dans le verset. Je reprends le verset. Vaishmar Yitro, et Yitro entendit, et quand il y a Vaishmar, dans ces contextes-là, ça veut dire aussi compris, comme Shema Israël d'ailleurs, s'est rendu compte de Kohen Midian, il était le prêtre de Midian, on a vu ce que ça signifiait. Beau-père de Moïse, on a vu ce que ça signifiait. Et Asher Asa Elohim, les Moshe ou l'Israël Amo, qui Otsi Hashem et Israël Mimitzrayim. Vous reliez Elohim et Hashem, c'est la question qu'on va étudier. Comment Jethro va passer d'un niveau de la révélation monothéiste au deuxième niveau de la révélation monothéiste. Mais déjà, on apprend, par rapport à la question incidente que j'avais signalée, que cette sagesse de l'organisation de la société, ça fait partie de Torah Elohim, beaucoup plus que de Torah Hashem. Mais rappelez-moi cette question, il faudrait que quelqu'un me le rappelle parce que j'ai déjà la mémoire de mon âge et ça existe. Pour la Sidra la semaine prochaine, au mot de Mishpatim, c'est l'organisation de la société. Et alors, l'organisation de la société, c'est plus de Torah Elohim que de Torah Hashem. Je le dis très rapidement pour vous rappeler la question qu'il faut me poser. La Torah Hashem demande que si le fonctionnement de la société fait qu'il y a des maîtres et des esclaves, on libère les esclaves. Alors que Torah Elohim, au contraire, garantirait que le fonctionnement des lois du monde fait que, lorsqu'une société fonctionne, à travers la dimension, essentiellement la dimension économique, mais à travers toutes les dimensions de l'administration d'une société, en fin de compte, il y a des maîtres et des esclaves. Des patrons et des ouvriers, c'est le même problème. Ça, c'est la justice sociale pour la société. La Torah intervient pour dire « libérez-les ». Et c'est à tort qu'on appelle ces lois de Mishpatim des lois de justice sociale. C'est des lois d'injustice sociale. C'est des lois de charité contre la justice de la société. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. La Torah intervient et dit il faut briser l'ordre naturel du fonctionnement administratif d'une société et libérer les aliénés. Alors qu'au contraire, la justice de la société, la justice que la société réclamerait, en tant que société, serait précisément l'ordre totalitaire. Vous voyez le bilboule des moussagim qu'il y a. Hein, les juifs sont très fiers de dire « Nous avions des lois de justice sociale. » Il y a une erreur de définition. Ce sont des lois de charité sociale. Je ne sais pas si c'est clair ce livre. Hein. La Torah est contre la fatalité des lois de la société. Ah oui, toutes ces conceptions économiques qui se basent sur une science du fonctionnement de la société sont anti-Torah, c'est le contraire. Okay, la Torah est contre cela. D'une Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans le temps contemporain, vous remarquerez que le monde est géré au niveau des grandes puissances surtout, mais je pense que ça a retenti sur tout le monde, à travers des impératifs économiques qui prennent le pas sur les impératifs politiques. Les multinationales sont plus importantes que les gouvernements nationaux. Je ne sais pas si vous savez ça. Et je ne sais pas si vous voyez dans quel genre de problème énorme les Juifs s'insèrent à travers leur insertion des multinationales. Bon, je referme la parenthèse. L'économie ayant pris le pas sur la politique échoue partout. Pourquoi ? Parce que c'est une économie séparée de la morale. Vous voyez la différence ? Une économie qui fonctionne d'après les lois de la société, elle est inévitablement séparée de la morale. Alors la Torah, au contraire, Torah Tachem intervient pour dire il faut briser cette fatalité du fonctionnement. Et dans mes études, je n'ai pas beaucoup étudié ces problèmes économiques, mais suffisamment pour comprendre qu'il y avait un petit espoir dans toutes ces doctrines économiques, par exemple du socialisme de l'abondance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où on parlait du socialisme de l'abondance. C'est-à-dire, on essaie d'introduire des perspectives morales dans théories économiques. Et en tout cas, je pense que cette espèce d'imitation de l'année sabbatique dans les sociétés occidentales, qui vient d'ailleurs des anglo-saxons, je ne sais pas si vous savez cela, et ils ont gardé le nom de sabbatique, mais personne ne reconnaît que ça vient de la législation de la Torah, mais c'est précisément, ça a pour objet de briser l'affolement de la machine économique qui, en fin de compte, aboutit à l'aliénation de ce que la Torah appellera dans la Parasha de Mishpatim, des Avadim. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est un éclairage un peu de la différence entre ce terme de Elohim et ce terme de Hachem. Il y a Torah Elohim, c'est la loi du fonctionnement du monde que Dieu a créé. Mais il y a Torah Hachem, c'est la loi du dépassement, de la révélation de l'avenir du monde, et c'est ça le chidouche de la Torah de Moïse, Torah Hachem. Habituez-vous à cette différence. Et alors, la Bible va intervenir, c'est surtout le prophète Élie qui va le dire de manière catégorique, attention, Hachem, ou Elohim, c'est Hachem qui est Elohim. Et pas l'inverse. C'est pas Elohim qui est Hachem. Ça, c'est l'erreur de Spinoza. Enfin, je ferme la parenthèse, on verra ça un autre jour. Alors, j'avance. Vaïkar Yitro Chotel Moshe, et Jethro, beau-père de Moïse, prit Tzipora, femme de Moïse, Achar Shilochéa, après que Moïse l'avait renvoyée, on pourrait dire répudiée. Moïse était détaché de tout ce qui a été le passé à Midian, après la vision du buisson ardent, pour rejoindre Israël en Égypte. Toute cette tentative que l'avenir des valeurs des patriarches passe par Midian et pas par Israël qui aurait échoué en Égypte, Moïse décroche tout cela après la vision du buisson ardent. Et donc, il avait quitté Tzipora et ses enfants. Vous voyez tout ce qu'il y a comme arrière-fond à récupérer pour lire le texte. Que Vechenebanea et ses deux fils, je suis vraiment désolé du chat de Scodatitro que j'ai dans la gorge. Vechenebanea et ses deux fils, Asherchemaechad Gershom, et le nom du premier était Gershom, qui a marqué, car il avait dit Moïse, Geraiti Beret Nochria, je suis étranger, j'ai été étranger dans un pays étranger. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a étudié, c'est quand il a pris acte qu'il était étranger en Égypte et étranger à Midian, qu'il s'est rattaché à l'identité hébraïque, que Dieu se révèle à lui. C'est quand il a eu Gershom et qu'il l'a appelé Gershom, que Dieu s'est révélé à lui pour la première fois. Et il avait 80 ans. Il s'est révélé à lui, on a étudié ça cette année, et il s'est révélé à lui avec la voix de son père. C'est pourquoi on appellera Moïse de la révélation Moshe ben Amram. Il se rattache à son peuple par la voix de son père. C'est très important de savoir cela. J'ai remarqué dans mon expérience, toute petite, mais avec un tel grand nombre de cas, que énormément de juifs ou de juives ont quitté le judaïsme parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs parents directs. Alors le résultat a été qu'ils s'éloignaient du judaïsme. Et la voie du retour, ça passe par reconnaître ses propres parents. Nous avons beaucoup de sources à ce sujet, mais je peux vous garantir par expérience, hein, le nombre de ces cas, c'est stéréotypé. Tout de suite, dès qu'on entend l'histoire de chacun, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh bien, la Torah a déjà enseigné ça. pour retrouver le lien à Anochi Hashem, il faut d'abord commencer par Kaved et Tabicha et Timecha. Vous voyez les deux commandements. Donc, et je ne résiste pas à vous citer un enseignement d'un grand maître kabbaliste, mais sans parler de Kabbalah derrière, qui était Abou Lafia, Yitzhak Abou Lafia, qui a enseigné quelque chose d'extraordinaire. L'enseignement de Rabbi Yitzhak Abou Lafia, quelqu'un a entendu ce nom-là? C'est le nom de grande famille sfarade d'Espagne, et il y a encore à Jérusalem des familles Abou Lafia qui descendent de ces familles d'Espagne. En général, ils sont dans la communauté des juifs de langue espagnole de Rehova Habatzelet. Je ne sais pas si vous voyez de quelle communauté je parle. Le Ba'ad Aïda Sfaradit. Tu connais? C'est là, il y a des Abou Lafia là-bas. Oui, j'ai dit Abou Lafia, le gosse est rentré. Alors il dit comme ça, si on prend l'alphabet, on voit que la première lettre c'est Aleph et la deuxième c'est Bet. Le premier mot c'est Av. La première expérience du langage, et donc derrière le langage de la réalité en fait compte spirituelle à travers les catégories intellectuelles, c'est la notion de paternité, de filialité. Le premier mot de l'alphabet hébraïque, de la langue hébraïque, c'est Av. Il dit, si on coupe l'alphabet en deux, la lettre qui est à la fin de la première moitié, c'est la lettre Lamed. Et la lettre qui est au début de la deuxième moitié, c'est la lettre Mem. Et la dernière lettre, c'est Tav. Vous y êtes, Aleph, Bet, Lamed, Mem, Tav. Alors il dit, celui qui a un Av aura un El. Vous suivez? C'est-à-dire, celui qui a résolu son lien avec son père, résout son lien avec son Dieu. Av, El. Et celui qui a résolu son lien avec sa mère, M, alors il pourra dire à quelqu'un, hâte, et se marier. Je ne sais pas si vous voyez cette densité d'enseignement qu'il y a dans les lettres. Alors c'est toute l'histoire de Moïse, d'ailleurs, qui a derrière. Mais enfin, ça commence comme ça. Aleph Bet, Aleph Lamed, Aleph Mem, Aleph Tav. Réfléchissez ce qu'il y a là derrière. Si vous écrivez un poème là-dessus, vous me l'enverrez. Bon, je continue. Veshema Echad est le nom du deuxième, qui est appelé aussi le nom de l'un. Il n'y a pas le nom de l'autre, il y a le nom de l'un pour les deux. Eliezer, qui est loqué à Bibé Ezri, car le Dieu de mon père est venu à mon secours, vous voyez, le lien avec son père, est loqué à Bibé. C'est l'expression la plus forte de l'histoire de Moïse. Il rentre en Israël lorsqu'il reconnaît qu'il est Métèque en tant qu'Égyptien, qu'il est Métèque en tant que Midianite. Et alors, il se relie à l'identité de son père et Dieu se révèle à lui. Vous voyez, c'est clair? Réfléchissez à ce qui étudie le texte de la Tfila, que la première bracha de la Tfila, c'est la bracha de Avot. Et Avot, c'est la première bracha. Et loqué Abraham, loqué Isaac, loqué Yaakov, Magen Abraham, cette Hatima s'appelle Avot. Et alors, la Kavana, je vous cite une Gomara, c'est-à-dire avant même le Zohar, la Kavana, c'est de se relier au Dieu des Avot. Et alors, qui va pouvoir réaliser la relation au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? La halakha demande qu'on se relie au Dieu de ses pères, de ses propres pères. Avot, c'est-à-dire le même enseignement qu'on a cité tout à l'heure. Avot, c'est les pères. En fin de compte, c'est mes propres pères. Regardez l'histoire de Moïse. Il s'est relié à Abraham, Isaac et Jacob parce qu'il s'est relié à Amram. Vous y êtes? C'est un problème extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi il fallait que j'ouvre une parenthèse là-dessus. Ça me mène à vous signaler la question, qui est une question d'étude très très sérieuse. On croit souvent, et on en est fier, mais on se trompe, que les enseignements de la Torah procèdent de la raison. En fait, lorsqu'on étudie la question, on s'aperçoit qu'au contraire, les enseignements de la Torah s'opposent à la raison. Je vous donne un exemple. Énormément de juifs sont fiers de dire « Regardez comme notre Torah est rationnelle. Regardez les grands principes que nous avons. Honore ton père et ta mère. Regardez à quel point c'est beau, c'est rationnel. » Vous avez sûrement pensé à ça ou entendu ça. C'est tout le contraire. La Torah sait très bien que par la nature, on s'oppose à ses parents. C'est pourquoi elle intervient pour dire le contraire. Honore ton père et ta mère. Mais à quel point c'est l'inverse? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors il y a beaucoup de faux problèmes et de problèmes cachés qui viennent parce qu'on n'ose pas s'avouer qu'on sait, on a eu cette révolte contre les parents. Et alors on cache ça, on camoufle ça, et en fin de compte ça donne à manger au psychiatre, Mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais parce qu'on n'ose pas découvrir cela, que la Torah connaît la réalité du monde, et dans la réalité naturelle, il y a l'opposition des générations. Ça commence, qui se rappelle la source dans la Torah ? Avec qui ça a commencé ? Non, ça c'est les frères entre eux. Je parle des générations. Du fils contre eux. Tu le sais ? Vous le savez ? Non. Quoi Israël ? Hein ? Qu'est-ce que Israël ?
Noé, le fils de Noé.
C'est-à-dire ? Très bien. Dis en clair, c'est la révolte de Ham à Canaan, à travers le fils de Ham contre Noé. Retrouvez le texte. C'est Madame Amadou Valenci a écrit un livre là-dessus, ou si elle n'a pas écrit, elle devrait l'écrire. Ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'aime pas beaucoup de ça. Vous allez voir qu'elle va l'écrire. C'est que ce qui définit la tradition juive, c'est le Shilou Vadorot, l'enchaînement des générations. Un tel fils, un tel fils, un tel fils, un tel. C'est le Chilou de la Torah. Hein? Alors que dans la réalité naturelle, c'est la rupture des générations. Vous voyez où ça va. Hein? Et alors, c'est la raison pour laquelle la sagesse de la révélation a pu passer à travers Israël. Parce que partout ailleurs, la culture avance par bond antithétique, synthétique, à la manière dont Hegel a décrit cela, hein? Par bond de opposition. On s'affirme contre. Ce qui fait que les générations ne peuvent pas profiter de l'acquis de l'expérience du passé. Sinon, quand c'est trop tard. Un proverbe goy clair à ce sujet, c'est « Ah, si vieillesse savait, et si jeunesse... » Non, c'est l'inverse. « Ah, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. » Quel est ce drame ? C'est que la rupture des générations fait que l'expérience ne passe pas. Elle est récupérée intellectuellement sous forme de culture quand c'est trop tard. Quand ça devient des livres pour mettre dans des bibliothèques. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Ça pourrait être exploité pour définir la civilisation européenne. Et surtout la différence entre la philosophie et la prophétie. Tous les prophètes disent la même chose, chacun avec son style. Tous les philosophes s'opposent les uns aux autres avec le même style. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas un style haut la plupart du temps. Je reviens au sujet. De quoi je parlais ? Ah oui, qui est Eloke Abi Bez. Et c'est cela qui l'a sauvé du glaive de Pharaon. Vayavo, Yitro Chotel Moshe, et Yitro, beau-père de Moïse, vint, Ubana Veishto, et ses fils et sa femme, et le Moshe vers Moïse, et l'Amidba au désert, Asherou Chone Sham, où Moïse campait avec le peuple d'Israël, Har Elohim, la montagne de Dieu. Har Elohim, la montagne de Dieu, c'est le Sinaï, ce qu'on apprendra par la suite. Et c'est important de savoir qu'elle s'appelle Har Elohim avant le Mahamad Har Sinaï. Suivez bien ça. Vayomer el Moshe, et il dit à Moïse, c'est-à-dire, j'ai trop dit à Moïse, enfin il trouve. Ani Choten Cha Yitro. Je suis ton beau-père, Jethro. Baelecha, je viens vers toi. Vous verrez Rashi, Rashi nous dit qu'il a envoyé un envoyé faire dire à Moïse, je viens. J'arrive. Veishtecha ushnebanea eima, et ta femme et ses deux fils avec elle. Vayetse Moshe likrat rotno, et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Baishtachu, ils se prosternèrent. Baishachlo, je crois que c'est un singulier, Baishtachu. Il se prosterna, Vaishaklo, il l'embrassa, Vaishalou, non, c'est un pluriel. Ah, non, non. Vaishtachlo, c'est un singulier, Vaishaklo aussi, mais Vaishalou, c'est un pluriel, Ishlereu, chacun a demandé à son prochain le souhait de paix, Vayavou ou Aoela, et ils entrèrent dans la tente. Vaishaper Moshe Lechotno, suivez bien maintenant, on va retrouver notre problème des noms. Vaïsaper Moshe Lechotno, et Moïse raconta à son beau-père, et kolasher asa Hashem le pharaon. Vous voyez ce que Hashem avait fait au pharaon, au Mitzraïm et à l'Égypte, Regardez la différence. Jéthro avait compris ce que Dieu Elohim avait fait à Moïse et Israël. Et Moïse va expliquer ce que Hachem avait fait au Pharaon et à l'Égypte. Alors d'autres Israël, au sujet d'Israël. Et que la Tela, toute la turbulence, comment dire Tela, toute la, aidez-moi à traduire, Tla, Tla haute, les tribulations. Comment vous traduit?
C'est écrit tribulation.
Eh bien c'est ça. Et toutes les tribulations, Hachem, Metzahatam Baderich, qui les a surpris en chemin, Bayatil et Hachem, et que Hachem les a sauvés. Vous voyez ce qui se passe? Il y a une vision de type Yitro de tous ces événements que raconte la Torah. C'est une vision à travers le prisme des lois de la nature. Et vous savez, c'est une tendance chez beaucoup de juifs aussi, pour se rassurer, d'essayer de ramener tous les événements des récits de la Torah concernant l'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël à des événements naturels. J'en ai parlé la semaine dernière à propos du passage de la mer Rouge, je pense. Que c'est tout simplement que Moïse était un très grand géographe, doublé d'un très grand astronome. Il savait quand est-ce qu'il y aurait une éclipse de lune. Il connaissait le passage à Gué. Et puis, il a fait sortir Israël cette nuit-là pour que les Égyptiens ne les voient pas sur le gué de la mer Rouge pour les sauver. Voilà les explications que de grands hommes juifs, surtout du 18e et 19e siècle, se sont forgés pour se rassurer. La Torah ne dit pas des bêtises. C'était des événements naturels. C'est des choses rationnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, déjà, enfant, en Talmud Torah, je n'arrivais pas à comprendre, pour vous raconter ces choses-là, comment des grands hommes pouvaient être aussi infantiles. Parce que c'est vraiment... Galdouti. On pourrait faire une analyse phénoménologique de ces hypothèses d'explication pour se rendre compte à quel point c'est plat. Parce qu'il y a un faisceau de coïncidences telles que c'est en cela que réside finalement l'importance de l'événement. Mais surtout cette, je ne sais pas comment dire, cette tendance à nier l'essentiel. En fin de compte, c'est le propre d'une attitude qui consiste à s'auto-suicider en tant que juif. Dans tous ces milieux où on essaye d'interpréter la Torah de cette manière, en fin de compte, on abandonne le peuple juif dans sa spécificité. Vous ne pouvez pas trouver des machines qui marchent. Vous voyez que c'est pas rationnel cette histoire. Chaque fois, un jour, je vais finir par arrêter tout ça. Je sais que ça existe, des choses plus sobres. Alors voilà le verset important. Tête, verset 9. Vayihad Yitro. Je vais vous traduire ce mot de Vayihad. On va le traduire à travers Rashi. En fait, ça veut dire il a été terrifié. Vayihad, il a eu l'expression qui vient d'une expression populaire, smarmoret, comment on dit en français. C'est ça que je voulais pas dire. Comment on peut dire ça? Smarmoret.
Hein?
Pas vertige, frisson. Des frissons de frayeur. Vayihad Yitro. Regardez ce que dit Rashi. C'est bien Rashi. Vayihad. Vaismar, la chambre Hedva. Et Jéthro s'est réjoui. Zéopchuto, ça c'est le pshat, dit Rashi. Ou Midrash Agada, Naasa Besaro, Hidoudin, Hidoudin. Sa chair s'est faite des. Oui, c'est ça, mais on ne peut pas dire autrement ça en français. Bon, vous avez entendu.